France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des êtres qui ne sont pas destinés à se rencontrer, à s'apprécier, à vivre ensemble un moment, comme s'ils appartenaient au même monde, à la même époque, à la même histoire. Les sépare surtout l'âge. 20 ans, 30 ans ou même 50 ans de différence d'âge, c'est comme réunir des personnes qui ne peuvent pas partager grand-chose d'autre que le moment présent, le moment ici et maintenant. Voilà ce qui peut se passer entre eux. Ensemble, le futur n'a pas plus de sens que le passé, ils ne parlent pas tout à fait la même langue, ne sont pas encombrés par les mêmes souvenirs, les mêmes angoisses, ils n'ont pas les mêmes rêves. Et c'est là que surgit, avec un petit coup de main sociologique, ce qu'André Breton appelle le merveilleux quotidien. La beauté d'une rencontre fortuite cachée au cœur de la vie quotidienne, dans la rue, dans un immeuble parisien, un événement magique blotti dans une coïncidence. Il s'agit alors de le percevoir, ce hasard objectif, de le reconnaître et de l'accueillir. C'est ce qui est arrivé de façon très différente à nos personnages du jour. Séparés par des années les uns des autres, ils se sont trouvés un moment, se sont rapprochés, compris et puis plus. Voici deux récits signés Alice Babin.
Je m'appelle Béatrice, j'ai 33 ans, je suis parisienne, née à Paris et j'habite ici depuis toujours. J'avais rencontré, quand j'avais 25 ans, un garçon très gentil, très beau, parfait. Et j'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi doux, d'aussi délicat. Et on est resté assez longtemps ensemble, mais je crois qu'à un moment donné, j'étais simplement avec lui parce que j'avais peur de vivre. Et lui, je sais que c'était quelqu'un de très droit, qui voulait vraiment faire un beau mariage, que ça dure. Et je lui ai dit, je peux pas, parce que je suis tombée dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc j'ai été honnête avec mon fiancé, je lui ai dit que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un, qui était ma première passion amoureuse, voilà, à 30 ans. Faut bien que ça arrive, tant mieux. Puis là, ça m'explosait à la tête, et la seule chose à faire, c'était d'assumer et d'annuler mon mariage. Et puis là, sans crier gare, ce garçon dont j'étais tombée amoureuse et avec qui je pensais que j'allais vivre une histoire formidable me dit qu'en fait, lui, il doit poursuivre sa vie et moi la mienne, chacun de son côté. Je ne comprenais pas son attitude, je trouvais ça injuste et... Enfin, c'était un vrai chagrin d'amour, c'est-à-dire que j'étais pas révoltée, j'étais pas... Je lui en voulais pas, mais j'étais juste... Ouais, très triste, je me sentais très seule. C'était un double deuil, c'était le deuil de mon mariage et puis il y avait le deuil de cette histoire d'amour. Donc j'étais ici, dans cette chambre, toute seule. C'était l'été 2023 et je me suis dit, je ne vais pas rester chez moi, il faut que je conjure le sort. Donc je me suis dit, je vais aller au bois de Vincennes, j'ai enfourché mon vélo. Et je suis passée par les quais, parce que les quais sont accessibles au vélo. Et il y a notamment un quai où les gens dansent du tango. Et c'est quelque chose que j'avais toujours demandé à mon fiancé de faire ensemble. Je voulais absolument qu'on danse du tango ensemble. Je m'étais toujours dit, la personne avec qui je ferai ma vie, on dansera bien ensemble. Et il m'avait toujours un peu rabroué en me disant que c'était des danses un peu ridicules, que c'était moche. Et donc là, voilà, j'entends le tango et je me dis, bah, je vais garer mon vélo et en fait, je vais rester ici. Et donc, je m'assois parmi les gens... Ouais, c'est face à la scène, c'est une sorte de petite arène en demi-cercle. Les gens dansaient le tango, il y avait des couples, ils étaient beaux. Je broie du noir, mais bah, je suis au fond du trou, alors de toute façon, je peux pas creuser plus. Je suis au fond, donc je vais forcément remonter. La présence des gens autour de moi, en fait, je me dis, la vie continue. Et donc voilà, j'étais un peu pensive, assise sur mon petit rebord. Et là, devant moi, il y a un homme qui se retourne, comme s'il avait senti ma présence. Et il me fait un signe qu'il veut danser avec moi. Et alors je dis, ah non, 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 désolée, merci. Et là, il me regarde et il a l'air assez déçu. Et là, il se lève, il invite une autre femme à danser, et je l'observe à la dérobée, donc il n'est pas très grand, il est très mince, assez âgé, mais un beau vieux, avec un t-shirt noir, des chaussures noires, un pantalon noir, tout en noir. Et je vois qu'il danse très très bien. Et donc il danse, la musique s'arrête, il se rassoit. Et là, je le vois qu'il se retourne à nouveau, et il me regarde, et il hoche la tête en séance comme s'il exprimait un regret. Et il me refait un signe, alors que normalement, dans la règle du tango, on demande une fois, s'il y a un refus, on ne demande pas. Mais il me refait un signe. Et du coup, je me lève. Et je me rappelle, je porte un cycliste immonde, avec un grand t-shirt, et une chemise beige, et puis des grosses baskets, parce que j'avais prévu de me balader dans le bois, quoi. Donc je suis là, un peu crado. Et je lui dis, vamos. Et on commence à danser, et... il a une technique que font les tangueros, qui est une technique qu'aujourd'hui on considère comme un peu machiste et ancienne, mais en fait il me guide avec sa main dans mon dos. En tout cas, si t'es assez à l'écoute de ton partenaire, ça permet tout de suite d'être dans un dialogue avec le corps de ton partenaire qui est assez immédiat. Et effectivement, c'est très très fluide. Et au bout d'un moment, il me regarde, mais il est presque choqué, comme si je l'avais insulté, et il me dit « Mais je comprends pas pourquoi t'as refusé la première fois, tu danses très bien. » Et je lui dis « Oui... c'est juste que j'ai pas trop le cœur à danser. » Et il dit « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Mais comment tu viens ici, c'est pas pour rien qu'on vient ici. » Enfin, pour lui, c'était une évidence que si j'étais venue, c'était pour danser. Et alors là, je commence à me décomposer, à balbutier, et je me mets à pleurer. Et je dis « Bah en fait, je baragouine un truc. » Et là, il me regarde et il me dit « Como te llamas ?» Béatrice, ok. Moi, je suis un maestro de tango argentin. J'arrive de Buenos Aires. Et il me dit, le tango m'a sauvé la vie quand j'avais 50 ans, parce que j'avais perdu ma femme. Et c'est probablement mon dernier voyage à Paris, parce que j'ai 87 ans. Et il dit, j'ai encore 3 semaines devant moi. Donc si tu veux, je vais te donner 3 semaines de cours de tango gratuit. Et comme ça, ben... voilà, moi je partirai avec un bon souvenir et j'espère toi aussi. Et alors là, bon, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est un frotteur? Parce que, bon, à Paris, c'est quand même un endroit de rencontre, les lieux où on danse du tango. Il y a souvent des hommes célibataires qui viennent, des femmes célibataires. Le tango, c'est pas une danse anodine non plus. Donc, je dis, ah oui, merci beaucoup. Et en fait, il m'explique... que chaque année il vient à Paris pour donner des cours, donc en fait il me rassure, il me parle de plein de choses, donc en fait on s'assoit et là on commence à parler, on danse à nouveau, et puis au bout d'un moment je me dis bon, si ça se trouve c'est un menteur, mais il n'y a pas vraiment de raison, enfin il me donne sa carte, il y a marqué maestro de tango, il y avait toute une émission sur YouTube dans laquelle pendant 2 heures il est interviewé par une radio indépendante argentine et dans laquelle il raconte voilà le tango, etc. Donc je me dis bon, pas de risque. Et donc voilà, on avait échangé nos numéros de téléphone. Bon, donc voilà, il me donnait rendez-vous, il fallait être à l'heure, etc. Et donc on s'est retrouvés voilà pendant 3 semaines à raison de 2 à 3 fois par semaine à écumer les milongas en plein air de Paris. J'apprenais au fur et à mesure de la danse à découvrir ce caractère. Et en fait, Juan Carlos avait un caractère bien trempé. Et du coup, ça nous arrivait de se retrouver voilà, de 17h à, je sais pas, 21h. Enfin, on pouvait danser 4 heures d'affilée. Alors au départ, je mettais des vêtements très amples, sans décolleté, sans rien. J'avais pantalon ample, veste ample, parce que j'avais très peur d'être trop sexy, justement, parce que je suis pas prête à avoir de nouveau un contact avec un corps, c'est un corps étranger. J'ai pas forcément envie d'être intime physiquement avec lui. Il y a comme ça 2, 3, 4 cours qui se déroulent comme ça. Et finalement, on se retrouve ouais, à moins de 10 jours de son départ. Et voilà. Et puis je suis assez curieuse aussi de ce professeur de 87 ballets qui se retrouve à Paris. Et donc pour le remercier... je lui dis, bah, si tu veux, je t'invite au restaurant, dans une pizzeria, on va manger un morceau. Et durant cette soirée, il me dit, tu vas penser que je suis fou, mais le soir où t'es arrivé, en fait, j'ai senti ta présence. J'ai senti que El Duende del Tango était là. c'est quoi le duende del tango? Et il me dit, bah, c'est la flamme du tangueros. C'est l'étincelle qui existe entre un homme et une femme quand la danse se passe bien. Parce qu'il faut savoir que le tango, à l'origine, c'est quand même une danse qui a été imaginée entre les prostituées du port de Buenos Aires et les marins. Et en fait, c'est extrêmement codifié, parce que l'idée, c'est que le couple se choisit dans la danse pour ensuite poursuivre la danse dans une autre étreinte. Donc le duende, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait anodin. Et donc voilà, il me dit qu'en fait, il a senti qu'il fallait qu'il se retourne. Et donc il m'explique que normalement, on ne se retourne jamais quand on fait une demande et qu'on obtient un refus, mais qu'il a senti qu'il devait insister. Et il me dit, j'ai le regret de t'apprendre qu'on ne va plus pouvoir travailler ensemble parce que je suis en train de tomber amoureux de toi et en fait j'ai très envie de coucher avec toi. Mais il me le dit vraiment texto. Je suis à la fois choquée, mais aussi touchée par son honnêteté. Et je lui dis, bah, je suis désolée d'avoir suscité ça. Et oui, si tu veux, on arrête. C'est dommage, mais... Mais du coup, c'était comme si ça avait ouvert une sorte de boîte de Pandore. Il faisait des plans sur la comète. Il me disait, mais tu sais, Béatrice, on pourrait partir ensemble, rentrer ensemble en Argentine, chez moi, j'ai 40 mètres carrés, je pourrais tendre un rideau dans la pièce, comme ça tu pourrais dormir dans un lit que je t'installerais. Et ensuite, on prendrait la voiture, on descendrait en Patagonie ensemble, je te ferais visiter la Patagonie. Tu es déjà allée en Patagonie? Non, là-bas, il y a des gauchos, enfin... C'était comme si j'étais avec un jeune homme de 87 ans qui est séduisant, parce qu'en fait il est séduisant, enfin, même si je me doute un peu que ses dents, c'est probablement un dentier, que je vois bien que sous son t-shirt, alors il n'a pas un gramme de graisse en plus, il est vraiment très sec, mais bon, j'imagine bien que la peau a plus l'élasticité de ses jeunes années. Mais il a cette espèce de fureur de vivre. Il a une forme de classe, quoi. Il a de la gueule, quoi. Il a de l'allure, il se tient très droit. Il a une forme de dignité. Et puis surtout, il a cette espèce de caractère ombrageux. Tu sens que c'est un prince, quoi. Il y a notamment un soir où, en fait, on se raccompagne. Et à un moment, il me dit, Béatrice, j'aimerais qu'on se dise au revoir, mais j'ai très envie de t'embrasser. Et en fait, je crois que j'en ai envie aussi, finalement. Donc je lui dis, bah, d'accord. Et alors là, je me penche plutôt vers lui, parce qu'en fait, il n'est pas très grand, on fait presque la même taille. Et là, il me fourre la langue dans la bouche, alors je dis, non. Enfin, ouais, il me fourre la langue dans la bouche. Et puis surtout, il pose sa main très gentiment, mais quand même assez fermement sur mon sein. Et je lui dis, non mais Juan Carlos, on ne fait pas les choses comme ça. Enfin, tu m'as pas demandé mon consentement. Et je lui dis, je suis pas une poupée. No soy una muñeca. Et là, pardon, désolée. En fait, c'est très étrange parce que j'étais pas en colère contre lui, parce que je sentais qu'il y avait cette espèce de décalage de génération et peut-être aussi ce décalage de culture. Et en fait, je sentais que, en fait, si tu mets des limites, bah, les limites, il ne va pas les franchir. Mais bon, il fallait mettre les limites, du coup, parce qu'il ne les connaissait pas. Et je pense qu'il a dû trouver ça très romantique d'apposer sa main sur mon sein d'une façon... Ouais, c'était très volontariste, donc c'était... En fait, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a pas... touchée, mais je me suis pas sentie abîmée, je me suis pas sentie salie. En fait, j'ai juste trouvé ça drôle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout, mais il manque pas d'air, quoi. Puis voilà. Et puis après, ça s'est un peu envenimé, finalement, parce que bah, il allait partir, et donc je crois que la veille de son départ, il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi, et là, il était pas insistant, mais il aurait vraiment souhaité qu'on passe une nuit ensemble. Je me suis dit, non, en fait, je suis pas prête. Et j'en ai pas tellement envie. Donc je lui ai dit non. Et on s'est fait nos adieux comme ça. Et on a continué à s'écrire. Et à plusieurs reprises, il m'a dit que grâce à moi, il avait à nouveau ressenti les premiers émois amoureux de sa jeunesse. Grâce à toi, j'ai eu à nouveau 20 ans. J'aurais jamais cru que ce serait possible. Donc merci. Et moi, grâce à lui, je m'étais sentie belle à nouveau, peut-être désiré. J'ai réalisé un rêve de petite fille, de danser. Et puis surtout, ça m'a rappelé aussi que oui, la vie avait encore beaucoup de choses en réserve pour moi. Qu'il y aurait toujours et encore des surprises. Et je ne l'ai plus jamais revue. Tuve sensaciones juveniles con tan solo contemplar tus bellos ojos. J'ai ressenti des émotions juvéniles à contempler tes beaux yeux.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Michel, tout le monde m'appelle Mimi et j'ai 85 ans. Donc ça fait environ 45 ans que j'habite ici, dans ce quartier. Ah ben dans ma vie, j'ai fait... En résumé, j'ai eu 3 restaurants. Un dans le quartier Odéon, l'autre à la Bastille, le troisième, la grande halle de la Villette. Après, j'ai fait plein de boulots différents. Je cherchais des maisons pour les gens qui n'avaient pas le temps de chercher. J'ai travaillé dans des galeries de peinture. Enfin, j'ai fait différents, beaucoup de petits métiers, mais que j'aimais bien. J'ai grandi à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. J'ai donc vécu à Montrouge jusqu'à ce que je me marie. Et après, j'ai habité avec mon époux, dont j'ai eu 2 filles. Et puis, j'ai eu l'occasion de trouver cet appartement que j'ai acheté. Et voilà, dans le 5e, près du Luxembourg. Où que ce soit, j'avais toujours du monde autour de moi. Par exemple, quand j'étais rue Bray, je faisais au moins un dîner par semaine, voire 2. La clé était tellement bien cachée que tout le monde savait exactement où elle était, mais c'était prévu pour. Si bien que je rentrais chez moi, il y avait des copains, ou des copains des enfants, enfin bon, de mes 2 filles. Et donc maintenant, depuis 2 ans, je vis toute seule et je le vis bien. Mais j'ai quand même des amis qui passent. Et sinon, je sors, je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vais voir des expos, je fais beaucoup de choses. Et j'ai une vie agréable, tout va bien. Vraiment, je m'y attendais pas, je croyais que j'allais déprimer, mais je ne déprime pas du tout, du tout. Je sais pas, c'est une autre vie qui me convient aussi, on peut dire. Mais ça remonte à 2 ans, et on sonne à ma porte, c'était une heure qui n'est... Enfin, mettons 8 heures du soir, grosso modo. Et j'ouvre, et je vois un garçon qui est mon voisin d'en face, avec un autre garçon que je ne connaissais pas. Comme je vois le voisin d'en face, je lui dis « Qu'est-ce qu'il t'arrive? T'as un problème ?» Et alors il me dit « Non, j'aimerais bien que vous téléphoniez à la maman de mon ami pour lui dire qu'il dorme chez moi. » Et je lui dis « Mais demande de faire ça à tes parents. Mais ils ne sont pas là. Mais qui te garde hein ?» Et il me dit « Ma grand-mère, bah, demande à ta grand-mère. Oui, mais elle dort. Elle est âgée, elle est fatiguée, elle dort. » Je dis « Bon, bah d'accord. » Donc je me suis fait passer pour la grand-mère. J'ai téléphoné. J'ai dit que c'était un bel endroit, que c'était pas dangereux, que j'étais en face de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, j'ai fait un baratin pour que cette dame accepte que le jeune puisse dormir chez mon voisin d'en face. Et elle, au bout d'un certain temps, elle a accepté que Arthur dorme chez Clarence. Voilà. Ils étaient très contents. Merci, madame. Au revoir, madame. Désolée de vous avoir dérangé. Et ils s'en vont. Et je me dis, ouais, je vais finir mon bouquin. Je commence et au bout d'un certain temps, on sonne à la porte. Donc, j'y vais et j'ouvre. C'était les 2. Alors, madame, excusez-nous de vous déranger, etc. Et est-ce qu'on peut entrer avec vous pour discuter? Ben, d'accord, oui, bon. Donc, ils sont entrés. Vers 11h, je leur ai dit, écoute, on a bien papoté de choses et d'autres. Enfin bon, là, à vrai dire, la première conversation, je me souviens plus très bien parce que c'était à bâton rompu, disons, je sais pas, comme ça. Et bon, vers 11h, je leur dis, maintenant, je vais me coucher. Au revoir. Et j'ouvre ma porte Il se retourne en même temps comme s'il s'était donné le mot et ils me disent « à vendredi prochain ». Et je dis « ben, d'accord, à vendredi prochain ». Et depuis, c'est tous les vendredis. Mais ils sont plus deux. Ils sont allés jusqu'à 10. En ce moment, c'est moins parce que ce sont les vacances. Il y en a qui sont pas là. Enfin, mais de toute façon, le vendredi, je refuse tous les dîners, quoi. Ou toutes les sorties. Et je leur achète des chips et 6 bières. Mais au début, quand ils étaient petits, je n'achetais pas de bière. Mais au fur et à mesure qu'ils ont grandi et que je les vois dans la rue, en train de fumer et en train de boire des... Enfin, ils ne boivent pas des bières comme des fous, mais enfin, en train de... Voilà. Je me dis, bon, autant que ça soit à l'intérieur. Et voilà. Le vendredi suivant, ils sont venus, le vendredi, etc., jusqu'à ce que ce soit les vacances où il en manque, ou ce soit les miennes et où je manque, mais ils sont venus aussi dans ma maison dans la Drôme. Et voilà, et c'est une histoire formidable, j'adore. Ils arrivent vers 7h, 6h ou 6h30, 7h, enfin dans cette fourchette, et ils sont là tous les vendredis. Ils arrivent, Mathéo est assis là-bas, Clarence est assis ici, Martin est là, Antoine est là, Raphaël est là-bas. La première chose qu'ils font, ils vont charger leur téléphone. Après, bon, généralement, ils mettent de la musique parce qu'ils sont très fans de musique. C'est du rap, c'est... voilà. Il y en a que j'aime et d'autres que j'aime pas. Dans ce cas-là, je m'en vais dans la cuisine parce qu'il y a des airs que j'aime pas, qui me cassent les oreilles, dont je déteste les paroles. Mais j'en parle après parce que ce sont des paroles qui ne me conviennent pas. C'est assez difficile d'amener une conversation, mais j'ai un truc parce qu'il y en a un qui adore le cinéma et qui y va très souvent. Et moi, j'aime beaucoup le cinéma. Qui dit, ah oui, mais moi, j'ai vu ce film, mais vraiment, c'était trop long, c'était ci et là. Puis après, au fur et à mesure, ça parlait de quoi? Et donc, ça me permet d'engager une conversation, ou rien, enfin, ou pas grand-chose. Quand ils parlent entre eux, je trouve ça tout à fait normal, parce que en fait, ils viennent de plusieurs lycées différents, mais même il y en a qui viennent de loin, de Bagneux, ils se connaissent par les réseaux, enfin, ils sont pas tous du coin. Mais ils se voient vraiment ensemble qu'ici, que le vendredi. C'est ici qu'ils se retrouvent. Enfin, quand je ne suis pas là, mais comment tu rates un vendredi? Quand les conversations deviennent un peu profondes, ils ont des difficultés et ils prennent leur portable. Mais c'est une catastrophe. Ils sont véritablement addicts à cette machine et... Je les vois qui sortent leur portable, je dis « Non, je t'ai vu, rentre ça, là on est là pour se parler. » Je lutte tous les vendredis. C'est pire que... C'est une bagarre, c'est une bataille pour qu'ils réalisent, quoi. Et je lance des sujets, par exemple, sur les problèmes avec les filles, sur le fait qu'ils en parlent mal, les filles. Et avec l'homosexualité... Mais on peut réfléchir, on peut discuter avec eux, parce qu'ils peuvent donner des arguments. La peine de mort, par exemple, je leur ai balancé aussi le sujet, quoi. Bon, et quand ils me disent « Oui, mais si on touche à ma famille, je tuerai le type », je dis « Bah, c'est bien, tu deviendras un assassin, quoi, c'est simple. » Et je leur fais lire le discours de Badinter, enfin, je rame. Mais j'adore, ils sont trop sympas. C'était un vendredi, je partais pour Beauvoisin. Et ce jour-là, ils étaient 2 au lieu d'être 6 ou 8. Et ils sont arrivés avec un petit carnet. Voici des petits mots pleins d'amour pour toi, notre humain préféré. Alors, coucou Mimi, j'espère que tu te portes bien. Tu sais très bien ce que je pense de toi. Je te vois à la fois comme ma grand-mère et comme ma meilleure amie. Si demain il m'arrive la galère du siècle, je sais que je pourrai toujours compter sur toi et vice-versa. Bref, depuis le début, on s'est directement entendu et j'aime me retrouver tous les vendredis à tes côtés. Salut Mimi. Alors je sais que ça fait beaucoup de temps qu'on se connaît. Moi je t'apprécie déjà énormément. C'est vraiment incroyable, les vendredis chez toi, tu nous as complètement changé notre année et le début de nos week-ends. Surtout, ne change pas et apprendre. Ah oui, et apprendre à rouler un jour. Parce qu'il roule des cigarettes et je ne sais pas, je leur dis, je ne sais pas rouler des cigarettes. Et apprends à rouler un jour. C'est très rigolo quand même. C'est entré très vite comme une habitude, comme, je ne sais pas, un rendez-vous. En fait, c'est un rendez-vous, le rendez-vous du vendredi qui, pour eux comme pour moi, est une expérience, enfin pas, même pas une expérience, c'est un plaisir. C'est un plaisir et une rencontre. Enfin, c'est important pour moi, c'est important pour eux. C'est improbable, absolument. C'est un cadeau pour moi. C'est vraiment un cadeau. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe entre une dame de 85 et des jeunes de 16. C'est enfin maintenant 17. C'est donc oui. Bon, le jour où ils vont partir, ce que je prévois. À moins qu'ils m'amènent leurs enfants, mais ça c'est encore une autre histoire, il va falloir attendre 5 minutes. Je me dis que ça serait normal, entre guillemets, qu'ils s'en aillent, quoi. Parce que, après, si jamais ils vont en fac ou quoi, et d'abord ils auront du plus de travail, et puis ils vont rencontrer des personnes, enfin bon, ils vont aller voir ailleurs. Mais, ben voilà, ça me manquera le jour où ils partiront, mais ils partiront. Ils vont me manquer, quoi.
Vuel, vuel sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur. Sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur.
C'était Merveilleuse Rencontre, un reportage d'Alice Babin réalisé par Perret Legras. Merci à Mimi, à Béatrice, à Solène et à Chloé. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. Siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo
en la intimidad vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur.